Première partie, chapitre 1. Une casquette de chasse verte enserrait le sommet du ballon charnu d'une tête. Les oreillettes vertes, pleines de grandes oreilles, de cheveux rebelles aux ciseaux et des fines soies qui croissaient à l'intérieur même desdites oreilles, saillaient de part et d'autre comme deux flèches indiquant simultanément deux directions opposées. Des lèvres pleines, boudeuses, s'avançaient sous la moustache noire et broussailleuse, et à leur commissure s'enfonçaient en petits plis pleins de désapprobation et de miettes de chips. À l'ombre de la visière verte, les yeux dédaigneux d'Ignatius J. Reilly dardaient leurs regards bleus et jaunes sur les gens qui attendaient comme lui sous la pendule du grand magasin D.H. Holmes, scrutant la foule à la recherche des signes de son mauvais goût vestimentaire. Plusieurs tenues, remarqua Ignatius, étaient assez neuves et assez coûteuses pour être légitimement considérées comme des atteintes au bon goût et à la décence. La possession de tout objet neuf ou coûteux dénotait l'absence de théologie et de géométrie du possesseur, quand elle ne jetait pas tout simplement des doutes sur l'existence de son âme. Ignatius, quant à lui, était confortablement et intelligemment vêtu. La casquette de chasseur le protégeait des rhumes de cerveau. Son volumineux pantalon de tweed était fait pour durer et permettait une liberté de mouvement peu ordinaire. Ses plis et replis emprisonnaient des poches d'air chaud et croupi qui mettaient Ignatius à l'aise. Sa chemise de flanelle à carreaux rendait inutile le port d'une veste et le cache-nez protégeait ce que Reilly exposait de peau entre col et oreillette. La tenue était acceptable au regard de tous les critères théologiques et géométriques, aussi abstrus fussent-ils, et dénotait une riche vie intérieure. Passant d'une hanche sur l'autre à sa manière pondéreuse et éléphantesque, Ignatius, sous le tweed et la flanelle, envoya mourir contre des coutures et des boutons des vagues de chair ondulante. Ainsi réinstallé, il se prit à songer au temps considérable qu'il venait de passer à attendre sa mère. Mais il concentra son attention sur le malaise qu'il commençait à éprouver. Il semblait que son être entier fût sur le point d'exploser, l'arrachant à ses semi-bottillons de daim gonflé. Et comme pour le vérifier, Ignatius dirigea le regard de ses yeux singuliers vers ses pieds. Ces derniers semblaient bel et bien enflés. Il s'apprêtait à offrir le spectacle de ses souliers tumescents à sa mère pour preuve de l'insouciance avec laquelle elle le traitait. Levant les yeux, il vit que le soleil commençait à descendre sur le Mississippi, au bas de Canal Street. La pendule de Holmes indiquait presque 5 heures. Déjà, il peaufinait quelques accusations bien senties, dont les termes choisis avec soin étaient destinés à réduire sa mère au repentir, et à tout le moins à la confusion. Il lui fallait souvent la remettre à sa place. Elle l'avait conduit en ville, dans la vieille Plymouth, et tandis qu'elle consultait le médecin pour son arthrite, Ignatius avait fait l'emplette de quelques partitions chez Verlaine pour sa trompette et d'une corde pour son luth. Puis il était allé flâner devant les appareils à sous de la Penny Arcade de Royal Street pour voir si l'on n'avait pas installé de nouveaux jeux. Il avait été déçu de constater que le jeu de baseball miniature avait disparu. Peut-être était-il seulement en réparation ? La dernière fois qu'il y avait joué, le batteur refusait obstinément de fonctionner et après quelques discussions, la direction lui avait rendu sa pièce de monnaie, bien que les employés eussent été assez mesquins pour suggérer qu'Ignatius lui-même avait cassé le baseball miniature en lui donnant des coups de pied. Concentrant toute son attention sur le sort du baseball mécanique, Ignatius détacha son être de la réalité physique de Canal Street et des gens qui l'entouraient. Aussi ne remarqua-t-il pas les deux yeux qu'il observait avidement depuis leur abri, derrière une colonne du grand magasin D.H. Holmes, deux yeux tristes, brillants d'espoir et de désir. Était-il possible de faire réparer la machine à la Nouvelle-Orléans ? Probablement. Toutefois, il pourrait se révéler nécessaire de l'expédier à Milwaukee ou à Chicago, ou encore dans l'une quelconque de ces villes qu'Ignatius associait dans son esprit à l'efficacité d'innombrables ateliers de réparation et à la fumée éternelle des usines. Ignatius espérait bien que le baseball mécanique serait manipulé avec le plus grand soin au cours de son expédition, qu'aucun de ses petits joueurs ne serait ébréché ou estropié par de brutaux employés des chemins de fer bien décidés à ruiner pour toujours leur compagnie sous le poids des réclamations d'usagers lésés, avant de se mettre en grève pour détruire Illinois Central. Tandis qu'Ignatius songeait aux délices que le petit jeu de baseball procurait à l'humanité, les deux yeux tristes et envieux se déplaçaient dans sa direction, fendant la foule comme deux torpilles filant à la rencontre d'un gros tanker à coque de tweed. Le policier tira sur le sac de partition d'Ignatius. « Vous avez des papiers d'identité, monsieur ?» demanda le policier d'une voix qui espérait qu'Ignatius fût dépourvu de toute identité officielle. « Quoi ?» Ignatius baissa les yeux sur l'écusson de la casquette bleue et ajouta « Qui êtes-vous »«
Montrez-moi votre permis de conduire. »«
Je ne conduis pas. Ayez l'obligeance de vous éloigner, j'attends ma mère. »«
Qu'est-ce qui pend à votre sac, là ?»«
Que voulez-vous que ce soit, imbécile ? C'est une corde pour mon luth. » »«
Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Le policier recula d'un pas.
« Vous êtes d'ici ?»«
Est-ce bien le rôle de la police municipale de s'acharner dans des tracasseries contre ma personne, alors que notre ville est, au vu et au su de tous, l'une des capitales du vice du monde civilisé ?»
beugla Ignatius au-dessus des têtes de la foule qui se pressait devant le magasin.
« Notre ville est célèbre pour ses joueurs professionnels, ses prostituées, ses exhibitionnistes, ses antéchrists, ses ivrognes, ses sodomites, ses drogués, ses fétichistes, ses onanistes, ses pornographes, ses fripons, ses coquines, ses vandales et ses lesbiennes, tous et toutes dûment protégés par la prévarication et le trafic d'influence. Si vous avez un moment, je suis prêt à entreprendre de débattre avec vous du problème de la criminalité, mais ne commettez surtout pas l'erreur de m'importuner, moi. »
Le policier agrippa Ignatius par le bras et reçut sur la tête un coup de sac de partition. La corde pendante du luth lui fouetta l'oreille.
« Hé là !»
s'écria le policier.
« Prends ça !»
cria Ignatius, remarquant qu'un cercle de badauds et chalands intéressés avait commencé à se former. À l'intérieur des magasins D.H. Holmes, Madame Reilly était au rayon boulangerie, pressant son sein maternel contre une vitrine de macarons. Du bout d'un doigt, rougi par des années de lessivage des caleçons géants et jaunis de son fils, elle toqua la vitrine afin d'attirer la vendeuse.
« Oh, Miss Inez !»
lança Madame Reilly avec cet accent qu'au sud du New Jersey, on ne rencontre qu'à la Nouvelle-Orléans, modeste port voisin du golfe du Mexique.
« Par ici, mon petit !»«
Tiens, comment que ça va ?»
s'enquit Miss Inez.
« Comment vous vous sentez, ma bonne ?»
« Bah, ça va pas bien fort !»
répondit Madame Reilly sans mentir.
« Bah, si c'est pas malheureux tout de même !»
reprit Miss Inez en s'accoudant à la vitrine et en oubliant les gâteaux.
« Ça va pas bien fort moi-même, c'est mes pieds !»« Seigneur, j'aimerais avoir cette chance, mais j'ai de l'arthrite dans le coude !»«
Non, pas ça !»
dit Miss Inez avec une compassion sincère.
« Mon pauvre vieux papa, ça !» On le fait s'installer bien tranquillement dans une baignoire d'eau brûlante. Mon grand-fils passe sa vie dans la baignoire. C'est tout juste si je peux encore mettre les pieds dans ma propre salle de bain. Mais je le croyais marié, ma toute belle. Ignatius ? Oh là 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 !
Dit tristement Madame Reilly.
Allez, chérie, donnez-moi donc 2 douzaines de ces sablés. Mais je croyais que vous m'aviez dit qu'il était marié,
insista Miss Inez en rangeant les gâteaux dans une boîte.
« Je n'ai rien en vue, voilà la vérité. La petite amie qu'il avait n'est plus au bercail. »« Bon, il a le temps. »« Ma foi, oui, »
répondit Madame Reilly en se désintéressant de la question.
« Dites, mettez-moi aussi 1/2 douzaine de ces gâteaux au vin, là. Ignatius devient mauvais quand nous sommes à court de gâteaux. »«
C'est qu'il est gourmand, votre garçon, pas ?»«
Oh, Seigneur, ce que je peux avoir mal au coude !»
répondit Madame Reilly. Au centre de la foule qui s'était rassemblée devant le grand magasin, la casquette de chasseur qui formait le rayon vert du cercle de badauds tressautait violemment.
« Je vais contacter le maire !» hurlait Ignatius.
« Laissez ce garçon tranquille !»
dit une voix dans la foule.
« Allez plutôt arrêter les stripteaseuses de Bourbon Street !»
ajouta un vieil homme.
« C'est un bon petit gars, il attend sa maman !»«
Merci !»
laissa dédaigneusement tomber Ignatius.
« J'espère que vous serez tous témoins de ce scandale !»« Allez, suivez-moi !»
disait le policier à Ignatius, sentant vaciller sa confiance en soi. La foule prenait des allures de populace émeutière et nulle patrouille n'était en vue.
« Je vous emmène au commissariat,